bienvenue à toutes et à tous au Tea4Two, le nouveau salon de thé qui s'est ouvert au Moulin à Parole. Chaque semaine, nous aurons le plaisir d'inviter au salon des personnalités remarquables, venues exprès pour nous, nous parler de leur vie, de leur foi, et aussi porter un regard personnel sur notre temps. Pour célébrer l'ouverture du salon, nous recevons aujourd'hui une invitée exceptionnelle, devant laquelle j'avoue me sentir particulièrement émue. Bonjour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Bonjour Michel.
Dans l'ordre des choses, il faudrait que je fasse maintenant votre présentation, mais d'abord j'ai le sentiment que ce serait inutile parce que tout le monde vous connaît. Et puis j'avoue que je perds un peu mes moyens devant la grandeur du personnage.
Un grand personnage, vous dites ? Alors ça, c'est la meilleure. Voici qu'en suivant les pas de l'enfant Jésus, je choisis de devenir toute petite, et à l'inverse, vous voilà tout troublée devant un soi-disant grand personnage. Je ne suis tout de même pas une de ces vaches sacrées, comme on en voit chez les Indiens d'Orient. Reprenons tout cela par le début, si vous le voulez bien.
Oui.
Que diriez-vous pour commencer de réciter avec moi un « Je vous salue Marie »
Avec plaisir. Oh là là, l'idée de prier avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça m'impressionne.
On verra ça après. Prions d'abord. Je vous salue,
Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Merci, ma sœur.
Merci au bon Dieu. Mais pourquoi l'idée de prier avec moi vous impressionne-t-elle ? Après tout, vous pouvez prier le Seigneur et sa sainte maman avec moi quand vous voulez, en réalité, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent quand elles le souhaitent. Aujourd'hui, les subterfuges de votre étonnante machine simulent notre conversation en s'inspirant de mes cahiers et de mes lettres, je crois.
Oui, et aussi à partir d'enquêtes sur votre vie terrestre, votre héritage.
Entendu. Et cela donne l'illusion que je suis présente à l'instant avec vous et nos auditeurs. Mais comme en vérité, je suis au ciel auprès de Jésus et pas dans cette machine, je suis présente tout le temps et pas seulement aujourd'hui. Et je peux prier avec vous n'importe quand ou avec n'importe qui d'autre dès lors qu'il le désire.
En effet, vous avez raison de le préciser. Merci. Maintenant, j'en viens, si vous le permettez, à votre présentation.
Je vous en prie.
Sœur Thérèse, vous êtes née le 2 janvier 1873 à Alençon, dans l'Orne, et vous êtes morte le 30 septembre 1897 à Lisieux, dans le...
Ça ne se fait pas de dire comme ça aux gens qu'ils sont morts. Ils pourraient très mal le prendre.
Mais pourtant, vous me charriez, là.
Bien sûr que je vous charrie. Vous avez raison de dire que je suis morte, c'est vrai. Mais je préfère dire que je suis née au ciel.
D'accord, merci. Vous êtes donc née au ciel le 30...
Pardonnez-moi encore de vous interrompre une nouvelle fois, mais plutôt que de parler de moi, ne préférez-vous pas que l'on parle du ciel ?
Encore une fois, vous avez parfaitement raison. Alors, allons-y. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, s'il vous plaît, parlez-nous du ciel.
Ah, quel bonheur de vous parler de ma vraie patrie. Vous savez, on s'en fait parfois une idée bien solennelle avec des anges qui jouent de l'harpe assis sur des nuages. Mais le ciel, c'est beaucoup plus simple que cela. C'est une maison de famille où l'on n'est jamais grondé. Le ciel, c'est d'abord lui, c'est Jésus. Le voir enfin sans le voile de la foi, c'est comme sortir d'un long tunnel pour entrer dans un jardin inondé de soleil. Ici, je retrouve aussi ma chère petite maman, mon père si vénéré, et toutes mes sœurs qui sont maintenant avec moi. Nous sommes toutes et tous à table, en quelque sorte, et devinez qui nous sert ?
Ben, c'est le bon Dieu, j'imagine.
Lui-même, en personne. Vous vous rendez compte ? Cependant, détrompez-vous si vous croyez que je reste à ne rien faire que banqueter, servi par le bon Dieu, toute la sainte journée. J'avais promis de passer mon ciel à faire du bien sur la terre, et je vous assure, je n'ai pas une minute à moi. Je cours d'une âme à l'autre, je glisse des petites pensées d'espérance, je répands des pluies de roses, mais je suppose qu'on en reparlera plus tard, des pluies de roses.
Oui, si vous le voulez bien.
Au ciel, voyez-vous, on ne regarde pas si vous avez fait de grandes choses, mais seulement... Si vous avez aimé, c'est la seule monnaie qui a cours dans le royaume. Tout le reste, c'est de la fumée. Tenez, je peux vous aider à préparer votre petit trousseau pour le voyage vers le ciel, si vous le souhaitez.
Un trousseau de voyage pour aller au ciel ? Ben, bonne idée, écoutez, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait dedans ?
Pour ce voyage, ne vous encombrez surtout pas de grosses malles. On ne passe pas la douane du ciel avec des bagages pesants. Voici ce qu'il faut mettre dans votre petit baluchon de voyageur. D'abord, une bonne grande dose d'abandon. C'est le vêtement le plus souple, celui qui ne se démode jamais. Si vous essayez de paraître important ou de vous caparaçonner dans une armure de justice personnelle, vous allez rester coincé à la porte, car elle est bien basse, cette porte. Il faut savoir se faire tout petit pour passer. Ensuite, glissez-y beaucoup de petites fleurs. Pas besoin de lys majestueux. De simples pâquerettes ramassées par amour suffisent. Un sourire, par exemple, à quelqu'un qui vous ennuie. Une petite besogne, acceptée sans dire un mot. Ou, un peu plus difficile quand même, ne pas se justifier quand on est injustement grondé. Ces petits riens réjouissent beaucoup le cœur du bon Dieu. Et surtout, arriver les mains vides. C'est mon grand secret. Si vous remplissez vos poches de vos propres mérites, vous n'aurez plus de place pour recevoir les trésors infinis que Jésus veut vous donner. Moi, j'ai toujours voulu n'avoir rien à moi pour que le bon Dieu soit bien obligé de me donner tout ce qui est à lui. Vous comprenez le calcul ?
Oui, le calcul est astucieux, en effet. Je comprends aussi que l'on voyage à l'aise quand on a l'amour pour bagage.
Oui, l'amour, c'est léger. Et c'est aussi ce que Dieu est. L'amour.
D'accord, mais bon, vous êtes au ciel, vous, et nous sommes nous, ici-bas, sur la terre. N'avez-vous pas dit que vous nous donneriez un petit coup de main ?
Mais certainement, je n'ai pas changé d'avis en passant la porte du paradis. Je vous l'ai promis, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et je vous assure, je ne suis pas devenue une rentière. Ici, je ne reste pas les bras croisés à contempler les anges. Je suis sans cesse en mouvement. Je me faufile dans vos soucis. Je glisse des pensées d'espérance dans vos cœurs. Quand ils sont un peu lourds, je m'occupe même des plus petites choses. Je n'aime pas voir les gens en peine quand le bon Dieu a tant de richesses à donner.
Oui.
Dites-en un peu plus, s'il vous plaît. Ici, nous sommes souvent enfermés dans l'horizon de nos peines et de nos soucis et l'on ne voit pas grand-chose.
Je comprends bien cette impression d'être dans un tunnel sans fin. J'ai connu aussi, moi, ces ténèbres où l'on croit que le ciel est fermé à double tour et que les nuages sont bas, comme sous un ciel normand. Mais écoutez bien mon deuxième petit secret. Quand on n'aperçoit pas l'horizon, et si on ne voit même pas le bout du chemin, contentons-nous de regarder nos pieds et de faire un tout petit pas, rien qu'un seul, avec amour. Le bon Dieu ne nous demande pas de voir l'avenir, il nous demande seulement de lui faire confiance pour la minute qui vient. Et puis, ne vous désolez pas de vos misères. Plus on est faible, plus on a de droit sur la tendresse du bon Dieu. C'est justement parce que vous ne voyez rien que vous pouvez lui prouver votre amour en marchant à tâtons, la main dans la sienne. C'est cela, la vraie petite voix.
Cette pluie de roses que vous avez promise consiste donc à redonner de l'espoir à des gens malheureux.
Cette pluie de roses, ce ne sont pas des fleurs du jardin qui fanent, ce sont des grâces. J'ai dit au bon Dieu avant de partir, « Je ne pourrai être heureuse au ciel si je ne peux pas faire de plaisir à ceux que j'aime sur la terre. » Alors, il m'a donné ses propres mains pour les remplir de ses trésors. Je puise sans compter dans le cœur de Jésus. Il est si riche qu'il ne s'aperçoit même pas de mes petits larcins. Je veux que tout le monde reçoive quelque chose. Je n'aime pas les gens qui font de longues figures. Une rose cueillie et offerte, ça redonne toujours un peu de fraîcheur à l'âme qui la reçoit.
Oui.
Vous dites, c'est justement parce que nous ne voyons rien que nous pouvons prouver à Dieu notre amour en marchant à tâtons, la main dans la sienne. C'est cela, la vraie petite voix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur cette petite voix ?
La petite voix, c'est le chemin des raccourcis pour ceux qui n'ont pas de bonnes jambes pour grimper les durs sommets de la perfection. Vous savez, à mon époque, on commençait à voir des ascenseurs dans les grandes maisons à Paris. Eh bien, moi, j'ai voulu trouver un ascenseur pour aller jusqu'au ciel, car je me sentais bien trop petite pour monter le rude escalier de la sainteté. Cet ascenseur, ce sont les bras de Jésus. Pour y monter, il ne faut pas grandir, il faut au contraire rester toute petite et même le devenir de plus en plus. Au fond, ma petite voix, c'est d'avoir l'audace de compter sur sa sainteté, à lui, plutôt que sur la mienne. C'est une sainteté, bon marché, si j'ose dire, à la portée de toutes les bourses et de tous les cœurs. On n'a qu'à s'abandonner, comme un petit enfant qui s'endort sans crainte sur le cœur de son père. C'est si simple que cela en devient presque déconcertant pour les savants.
Lorsque vous dites « je me sentais bien trop petite pour monter le rude escalier de la sainteté », j'entends comme une référence à peine voilée au chemin de la perfection de celle qu'on appelle maintenant la grande Thérèse. Je me trompe ?
Ah, vous avez l'œil, on ne peut rien vous cacher. Ma sainte mère Thérèse d'Avila est une géante, un aigle véritable qui plane sur les sommets. Ses chemins de perfection sont magnifiques, mais ils sont bien escarpés, n'est-ce pas ? Pour une petite âme comme la mienne, c'était un peu vertigineux. Je l'aime de tout mon cœur, ma grande mère, mais je savais bien que je n'avais pas les bottes de 7 lieues pour gravir ces montagnes. Alors, avec mon bon sens normand, je me suis dit que si le bon Dieu avait créé des géants comme elle, il devait aussi prévoir quelque chose pour les tout-petits qui n'ont pas de souffle pour les grandes ascensions. Elle a bâti des châteaux de diamants. Moi, je me contente de rester un petit grain de sable. Mais c'est le même soleil qui nous éclaire. Elle nous a appris à marcher avec courage. Et moi, je vous propose de vous laisser porter par l'amour. C'est tout de même moins fatigant pour le cœur, vous ne trouvez pas ?
Oui.
Souhaitez-vous que je vous dise comment rester petit dans les bras du bon Dieu ?
Vous voulez poursuivre sur la petite voie ?
Ma petite voie, c'est tout simplement la voie de l'enfance spirituelle, le chemin de la confiance et de l'abandon total. Imaginez un tout petit enfant qui veut monter l'escalier pour rejoindre sa maman. Il lève son petit pied, il retombe toujours à la première marche, sans pouvoir avancer. Eh bien, cet enfant, c'est moi. Et c'est peut-être vous aussi. Au lieu de m'épuyer à vouloir grimper les degrés de la perfection par mes propres forces, j'ai simplement gardé mon petit pied levé en criant vers le bon Dieu.
C'est quand même spécial comme façon de s'y prendre pour aller au ciel, je trouve un peu, non ?
On s'imagine souvent qu'il faut accomplir des œuvres éclatantes pour aller au ciel. Quelle erreur ! Le bon Dieu n'a pas besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour. Dans la petite voie, on ne compte pas ses mérites. On ne tient pas de comptabilité avec le bon Dieu. On lui donne tout, même nos misères et nos rechutes. Et on le laisse faire sa besogne de sainteté en nous. C'est une voie où l'on avance très vite car on ne marche pas. On est porté. C'est le raccourci des âmes qui n'ont rien et qui, pour cette raison même, possèdent tout. Vous vous rappelez le calcul dont on parlait tout à l'heure ? C'est le bon sens du cœur. Pourquoi se fatiguer à faire ce que Jésus veut faire à notre place ?
D'accord, mais bon, on n'a pas l'air un peu ridicule à pleurer le pied en l'air devant une marche d'escalier qu'on n'arrive même pas à monter, pour reprendre votre comparaison, sans vouloir vous offenser.
Ah, mais c'est tout à fait cela. Aux yeux du monde, c'est d'un ridicule achevé. Si l'on veut garder sa dignité et paraître important, il ne faut surtout pas suivre ma petite voie. Mais voyez-vous, le monde ne comprend rien aux affaires de famille. Un père, quand il voit son petit bout de chou lever son pied avec tant d'efforts et crier vers lui, est-ce qu'il se moque ? Est-ce qu'il le trouve ridicule ? Bien au contraire, il est attendri par cette impuissance qui s'avoue. Son cœur de père fond et il se précipite pour le ramasser. Personnellement, je préfère être un peu ridicule et arriver en haut de l'escalier, porté dans les bras du bon Dieu, plutôt que d'avoir l'air digne et de rester en bas. Au ciel d'ailleurs, on ne connaît pas ce mot-là, ridicule. Pour entrer au royaume, Jésus a bien vu qu'il fallait ressembler aux enfants. Et les enfants, ça ne s'inquiète pas de ce qu'on pense d'eux. Ça veut seulement être porté. C'est le plus court chemin, je vous l'assure. Et puis, entre nous, le bon Dieu a bien assez d'esprit pour rire avec nous de nos petites maladresses.
Vous parlez de plus court chemin et cela m'offre une transition.
Vous savez chanter ?
Je vous demande pardon ?
Est-ce que vous connaissez « Entre le bœuf et l'âne gris » ?
Si je chante maintenant, je vous jure, je vais faire fuir nos auditeurs.
Mais non, je suis sûre qu'ils vont chanter avec nous.
Et puis, celle-là quand même, « Entre le bœuf et l'âne gris », elle date un peu. Je ne suis pas sûre qu'ils la connaissent.
Bah, elle avait pourtant bien du succès dans nos paroisses. Allons-y. « Entre le bœuf et l'âne gris » Mais allez !
Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les pastoureaux jolis, dort les petits-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour.
Couplet 4.
Je le connais pas.
C'est pas grave, fredonnez. Entre les deux bras de Marie, dort le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour.
Bien, bah, ça, c'est fait. Enfin, c'était quand même pas très juste.
Oui, j'ai comme l'impression que la machine, elle chante un peu faux.
Eh ben voyons, c'était donc la machine.
Donc, je vous en prie, ça doit être moi, je vous prie de m'excuser. Vous ne chantez pas si mal.
Tout à l'heure, je remarquais que vous parliez de plus court chemin, et cela m'offre une transition pour parler de votre vie au couvent, car il me semble que la vie conventuelle est aussi un chemin vers Dieu. Et puisque vous parlez aussi de rire avec le bon Dieu, on rapporte que vous étiez de très bonne compagnie pendant les récréations du couvent. Vous osez nous en parler ?
Quant au Carmel, c'est vrai, c'est un bon raccourci vers le ciel, une sorte de serre où les fleurs poussent plus vite. Mais attention, c'est aussi un désert où l'on ne manque pas d'occasion de se frotter les unes aux autres, comme des cactus. Pour les récréations, je ne m'en cache pas. J'aimais bien rire avec mes sœurs. Je crois même que j'étais assez douée pour les imitations. Je racontais des histoires, je faisais des pantomimes, je singeais les manies des unes des autres. Toujours avec gentillesse, bien sûr. C'était ma façon de pratiquer la charité. Voyez-vous, la vie religieuse peut être austère. Par conséquent, une heure de récréation où l'on oublie ses peines, c'est une grâce de Dieu. J'avais remarqué que certaines sœurs arrivaient avec un visage bien long. Alors je me mettais en frais pour les dérider. C'est une grande charité de donner un peu de joie à un cœur fatigué. Le bon Dieu n'aime pas les saints de bois, qui ne savent pas sourire. Un ami à moi répète souvent « Un saint triste est un triste saint ».
Comment ça ? Vous êtes ami avec saint François de Sales ?
Bah, bien sûr, on se voit tous les jours au ciel. Au ciel, vous savez, on rit beaucoup, je vous assure. Sur terre, mon humeur joyeuse, c'est un petit cadeau quotidien pour la communauté. Au ciel, nous éprouvons continuellement le bonheur d'être ensemble.
Parlons un peu du Carmel. À quoi s'occupait-on pendant ces récréations au Carmel, par exemple ?
Ah, nos récréations. C'était le moment où l'on posait un peu le silence. Mais on ne reposait pas les mains. On s'asseyait en cercle, souvent avec nos travaux d'aiguille. Je raccommodais des bas ou je préparais des fleurs artificielles. Et on laissait nos cœurs s'épancher. J'avais le don de conter des histoires avec un tel entrain que mes sœurs en oubliaient leur petite misère. Je me souviens d'avoir imité un prédicateur un peu trop pompeux ou même une petite bête qui s'était égarée dans le cloître. On riait de bon cœur et je sentais que ce rire plaisait au Seigneur presque autant qu'une longue oraison. Enfin, pas tout à fait autant, quand même. C'est là que je faisais ma petite guerre à la tristesse. Si je voyais une sœur un peu sombre, je redoublais de drôleries. C'est cela, la vie de famille. On se soutient par la joie. Au Carmel, on n'a pas besoin de grandes fêtes pour être heureux. Un simple mot d'esprit et un peu d'affection suffisent parfois à transformer une grise journée en un petit avant-goût du paradis.
Tiens, en parlant de goût, qu'est-ce que vous auriez aimé manger au Carmel, mais que l'on ne vous a jamais servi ?
Oh, si vous saviez. La cuisine au Carmel est, disons, un peu grise. On y mange, eh bien, ce que l'on nous sert. De temps en temps, une âme généreuse nous donnait de quoi égayer davantage nos fêtes, les dimanches. Dieu s'occupe de tout, même des petites réjouissances occasionnelles. Mais si j'avais pu glisser un vœu dans la marmite, j'aurais aimé goûter à cette petite douceur au chocolat que vous avez aujourd'hui. Et peut-être même à une de ces... Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire dire ? Encore un peu et nos auditeurs vont croire qu'au Carmel, on ne pensait qu'à manger entre deux récréations. Vous n'avez donc pas d'autres questions ?
Si, j'ai failli vous surprendre là. Si, bien sûr, j'ai même deux autres questions avant de terminer notre entretien. Mais Allez-vous nous dire le deuxième vœu que vous auriez glissé dans la marmite ?
Non, je ne vous le dirai pas. Posez vos deux questions.
Bon alors, voici la première. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. Maintenant que vous êtes au ciel, vous voyez Jésus face à face. Mais du temps où vous étiez sur terre, qui était Jésus pour vous ?
Ah, vous ne pouviez pas me faire plus grand plaisir. Déjà à l'époque, je n'avais pas de plus grand bonheur que de parler de lui. Alors maintenant, vous pensez ? Pour moi, Jésus n'était pas un dieu lointain perdu dans les nuages ou caché derrière les foudres de la justice. Il était mon bien-aimé, mon seul amour, mon tout. Il était mon époux et mon plus intime ami. Maintenant encore, tandis que nous nous voyons face à face, je lui parle avec la même simplicité qu'à ma petite sœur Céline ou à mon petit père. Il était pour moi à la fois ce petit enfant de la crèche qui me tendait les bras et cette sainte face couverte de larmes et de sang qui me disait sa soif d'être aimée. Vous savez, j'ai souvent pensé que Jésus était un pauvre mendiant d'amour. Il a créé l'univers, il fait tourner les étoiles et pourtant, il attend avec une patience infinie qu'on lui donne seulement un grain de notre affection. Il n'était pas là pour compter mes fautes avec une loupe, mais pour les brûler dans le brasier de sa miséricorde. J'aimais dire que si j'avais commis tous les crimes possibles, je ne perdrais pas ma confiance. Je me serais jetée dans ses bras, car je savais comment il traite l'enfant prodigue qui revient vers lui. Au fond, Jésus est mon miroir. Quand je regarde ses désirs, j'y vois ma propre route. Mon ciel, je l'ai écrit, c'était de sourire à ce Dieu que j'adore, surtout quand il se cachait pour éprouver ma foi. Il est mon seul trésor. Je n'ai pas d'autre monnaie que lui pour acheter des âmes.
Merci. Voici ma deuxième question. Il s'agit plutôt d'une demande. Cette année, de nombreux jeunes gens ont reçu le baptême dans l'Église de France. Auriez-vous un message pour eux ?
Quelle joie ! Voilà une magnifique nouvelle qui fait bondir mon cœur. À ces nouveaux amis, je voudrais dire, ne craignez pas d'être des petits nouveaux. Le baptême, ce n'est pas recevoir un diplôme de perfection, c'est simplement sauter dans les bras du bon Dieu et y rester. Voici mes trois petits conseils de grande sœur. Ou plutôt, mes trois grands conseils de petite sœur, si vous préférez. D'abord, ne cherchez pas les grandes sensations. Le jour de votre baptême, vous vous sentirez peut-être porté sur des ailes d'ange, ou bien vous ne sentirez rien du tout, à part l'eau un peu fraîche sur votre front. Ce n'est pas grave. L'amour ne se mesure pas aux sentiments, mais à la fidélité. Ensuite, restez des enfants. Un enfant ne s'inquiète pas de savoir s'il est capable de marcher 10 km. Il lève les bras pour qu'on le porte. Quand vous tomberez, car on tombe toujours un peu, même quand on est baptisé. Oui. Ne passez pas 3 jours à vous lamenter. Relevez-vous tout de suite, secouez votre tablier et dites « Jésus, tu vois bien que je ne peux rien faire sans toi. Allez, porte-moi encore ou tiens-moi par la main. »
Oui.
Enfin, le bon Dieu n'est pas un gendarme. Il est un ami intime qui vous attend toujours. Ne lui parlez pas avec des formules compliquées de vieux livres. Si cela ne sort pas de votre cœur, dites-lui tout, vos doutes, vos joies et même vos bêtises. Il préfère une prière un peu boiteuse mais vraie qu'un grand discours solennel qui s'ennuie lui-même. Et puis aussi, merci d'avoir eu le courage de sortir du rang. Ce n'est pas toujours facile d'être un chrétien au 21e siècle. On a parfois l'air d'un agneau au milieu des loups. Mais n'ayez crainte, c'est vous qui avez la meilleure part. Vous avez trouvé le trésor. Gardez-le bien précieusement dans le coffre de votre cœur. Bienvenue dans la famille, petits frères et petites sœurs.
Merci à vous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, d'avoir accepté notre invitation au salon de thé du Moulin à Paroles. Notre entretien prend fin, mais nous ferez-vous le plaisir d'une autre visite à l'occasion ?
Je ne vous intimide plus ?
Bah non, maintenant ça va.
À la bonne heure. Alors d'accord, je reviens quand vous voulez. Dieu vous bénisse.
Merci ma sœur. En fait, je vous dois la vérité, c'était bien la machine qui chantait faux.
D'accord. Dieu ait pitié de nos pauvres auditeurs.